c'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Québec veut en faire plus pour protéger les victimes de violences conjugales et les féminicides. On va implanter progressivement des bracelets anti-rapprochement pour mieux prévenir les crimes violents en contexte conjugal. On va parler tout de suite avec la ministre de la Sécurité publique du Québec et vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault. Mme Guilbeault, bonjour. D'abord, merci d'accepter de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous pour l'invitation, Mme Lavallée.
Mme Guilbeault, après le tribunal spécialisé en violences sexuelles et conjugales, voilà que vous allez encore plus loin, le Québec va plus loin, vous voulez qu'il y ait davantage de mesures. Parlez-nous de ce bracelet et de ce qu'il va faire comme différence précise.
Oui, effectivement, le tribunal auquel vous référez, ça a été une mesure forte, une recommandation forte des divers rapports qui ont été faits. On est allé de l'avant avec ça. Et j'avais aussi annoncé en avril dernier 223 millions pour une série de mesures, maisons d'hébergement pour femmes, organismes pour hommes, policiers, procureurs, organismes aussi qui travaillent avec les victimes. Et aujourd'hui, effectivement, on va plus loin. Puis je dirais que c'est aussi novateur, là, d'une certaine façon, que le tribunal spécialisé. Parce que on est précurseurs, on sera les premiers au Canada à implanter le bracelet anti-rapprochement. Il y a seulement 6 pays dans le monde qui l'utilisent en ce moment. Et là, le Québec va l'utiliser. On commence à l'implanter. Le premier bracelet va être installé hiver-printemps 2022, là, en début d'année 2022. Et ensuite, il va être installé, on va commencer à Québec. Et ensuite, on va graduellement l'implanter dans toutes les régions du Québec. On va terminer en décembre 2023. Donc, d'ici 2 ans, le bracelet sera disponible partout. Le bracelet anti-rapprochement, très simple, fonctionne. Il y a 2 parties finalement au dispositif. Une partie qui est installée sur la cheville du contrevenant, de l'auteur de violence conjugale. Il ne peut jamais l'enlever, le garde toujours 24/7. Et comme ça, on peut le suivre à la trace en permanence. Et l'autre partie, c'est la victime qui l'a avec elle, comme une espèce de cellulaire où tu sais qu'elle peut traîner avec elle dans son sac.
Un capteur.
Un capteur, exactement, pour qu'il puisse y avoir un lien. Là, ça fonctionne avec le réseau cellulaire, évidemment. Donc, là, il y a une zone d'alerte autour de la victime là, qui découle dans le fond des ordonnances des juges. Par exemple, un contrevenant peut pas s'approcher à 1 kilomètre de sa victime. Bon, donc là, ça va être programmé comme ça et ça va être la zone d'alerte autour de la victime. Si le contrevenant entre dans la zone d'alerte, ben là, les policiers sont avisés et ils vont tout de suite sécuriser la victime et par ailleurs localiser le contrevenant parce qu'il devient automatiquement en bris de condition. Fait que bon. C'est très concret et très efficace comme technologie.
Et la grande question, à quel moment quelqu'un sera tenu de le porter? Supposez que je porte plainte, que je suis une femme qui est en train de vivre de la violence conjugale, mon mari est en train de me battre, la police arrive. Est-ce que ça peut partir de là ou faut vraiment attendre que la personne soit condamnée? Accusée, condamnée, reconnue coupable?
Oui, mais ça peut être aux 2 étapes. Ça dépend de la situation que vous décrivez, qui malheureusement arrive trop souvent.
En effet.
Si vous vivez de la violence conjugale chez vous, la police est appelée, la police arrive, là, soit vous décidez de porter plainte ou de ne pas porter plainte. Des fois, le problème qu'il y a aussi, c'est que les femmes, pour toutes sortes de raisons, par peur, par crainte, il y a des enfants et tout ça, veulent pas porter plainte. Donc là, malheureusement, il y a comme, tu sais, ça s'arrête là. Mais s'il y a une plainte qui est portée, puis il y a des accusations qui sont déposées, là, éventuellement, cet homme-là va comparaître devant un juge qui va faire l'enquête sur la remise en liberté, à savoir, est-ce que, en attendant son procès, est-ce que je le laisse libre dans la communauté ou est-ce que je le garde en détention? Et s'il décide de le laisser libre en communauté, le juge va pouvoir imposer maintenant le port de ce bracelet-là. Fait que donc, la victime, elle, là, quand un contrevenant comme ça se fait remettre en liberté en attendant son procès, les victimes peuvent être très stressées de ça parce que souvent, ils ont un interdit de s'approcher, mais ils peuvent le faire quand même.
Ils s'approchent quand même, on l'a vu.
Il y a
des femmes qui ont été tuées dans les dernières années alors que le mari ne devait même pas s'approcher.
Exactement. Puis quand tu regardes les homicides conjugaux, souvent, il y avait des antécédents. Il y avait toujours, en fait, des antécédents. Fait que donc, bref. Donc là, avec ce dispositif-là, ça amène la paix des fait que ça peut être à l'enquête de remise en liberté au tout début des procédures, mais ça peut être aussi lors de la sentence. Un juge peut décider lors de la sentence, par exemple, vous allez faire 18 mois de détention et au moment de votre sortie de prison, je vous impose le port d'un bracelet pendant, par exemple, 2 ans. Bon, ou 1 an.
Okay. Okay.
Donc, ça peut être prédéterminé. Et il y a aussi nos commissaires aux libérations conditionnelles, parce que vous savez que les gens qui purgent une peine peuvent être éligibles à des libérations conditionnelles. Donc, les commissaires québécois qui décident, oui ou non, si on octroie une libération conditionnelle ou une permission de sortie préalable à une libération. En tout cas, c'est très technique, là. Mais les gens qui décident si oui ou non, il y a des libérations avant la fin de la sentence, vont pouvoir, eux aussi, imposer des bracelets.
Le bracelet,
et si le détenu refuse, peuvent le garder en détention.
Bon.
C'est très efficace.
Écoutez, c'est très prometteur, en tout cas, parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'on se sent tellement impuissant quand on regarde ce qui se passe dans les maisons. Et dans trop de cas, il est trop tard. Alors, j'aimerais ça vous entendre rapidement avant de passer à l'autre sujet. Vous devez vous douter que j'ai envie de vous parler aussi de ce qui se passe à Québec. J'aimerais ça que vous vous adressiez aux gens, aux personnes en ce moment qui sont à l'écoute, des femmes qui se sentent en situation de danger en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Premièrement, qu'aucune femme, et aucun enfant d'ailleurs, mais aucune femme ne devrait se résigner à subir de la violence, qu'elle soit physique, psychologique ou autre. Et que plus que jamais, avec tout ce qu'on met en place comme gouvernement, on veut encourager, inciter les femmes à dénoncer, puis non seulement à dénoncer, mais qu'une fois la dénonciation faite, parce que ça prend énormément de courage, on est avec elles par tous les moyens possibles, que ce soit de l'accompagnement humain tout au long du processus judiciaire, éventuellement un tribunal spécialisé qui va bien comprendre avec des ressources qui vont être habituées de travailler dans ces dossiers-là qui sont très difficiles, très délicats, et avec des moyens comme ce qu'on met aujourd'hui, on aurait été le premier gouvernement à installer le premier bracelet sur une femme, et ce qu'on veut faire avec ce bracelet-là, au-delà de tout ce qu'on s'est dit, la technicalité de ça, c'est de reconquérir la paix d'esprit pour nos femmes. Ces femmes-là vivent dans la hantise permanente de leur agresseur, qu'ils soient en détention ou qu'ils soient sortis de détention. Et osent pas sortir, ils ont peur que la personne vienne chez eux, déménage à répétition. Ça gâche leur vie et la paix d'esprit, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Puis c'est quelque chose qui leur est dérobé par ces auteurs-là de violence conjugale. Et j'ai espoir, moi, comme vice-première ministre, mais surtout comme femme qui veut faire de la politique pour aider les autres femmes, que ce moyen-là, qui encore une fois est très concret et très technique, va pouvoir les aider à regagner une partie de cette paix d'esprit, de cette autonomie, de ce pouvoir sur leur vie qui malheureusement leur a été volé par ces hommes-là.
En effet. Alors, juste rapidement pour clore le sujet, ça va se faire de façon graduelle, déploiement de ce bracelet, donc de la possibilité du bracelet d'ici 2023. D'ici la fin de 2023, ça devrait être partout au Québec. Maintenant, je veux parler, pendant que vous êtes avec nous, de ce qui s'est passé à Québec ce week-end. Là, on apprend que la police de Québec s'intéresse à la vidéo d'une troisième intervention sur venue récemment sur son territoire. On ne sait pas encore, enfin, du moins, je sais, avant l'émission, je ne savais pas si l'agent impliqué dans les deux autres arrestations brutales du Dagobert et du Portofino faisait partie de ça aussi. J'ai vu les images sur RDI il y a quelques instants sans voir les détails. C'est assez terrible ce qui se passe là. Et je me demandais, et je ne suis pas la seule, je pense que l'opposition vous l'a dit aussi, pourquoi le commissaire à la déontologie policière pour enquêter en ce moment plutôt que le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes? Il me semble que ça donnerait plus de résultats plus vite, non?
C'est que les deux organisations ont des mandats très différents. Donc, le commissaire à la déontologie policière que j'ai mandaté pour enquêter sur les vidéos de la fin de semaine va pouvoir enquêter à la fois, en fait, il va pouvoir enquêter sur l'entièreté de l'intervention policière, parce que c'est sûr que tout ce qu'on sait en ce moment, vous et moi, en tout cas moi, c'est ce qui était dans les images sur Internet en fin de semaine. Donc, on n'a pas ce qui était avant, on n'a pas ce qui était après, on n'a pas le contexte, il nous manque beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, le commissaire à la déontologie, lui, il a les pouvoirs d'un commissaire, comme son nom l'indique. Il peut accéder à tous les documents, les témoignages, parler aux gens, il va avoir toute l'information et il va pouvoir donc faire enquête sur la qualité de l'intervention policière. Mais sur deux fronts. Si lui, en cours de route, s'aperçoit qu'il y a potentiellement des allégations criminelles, quelque chose de possiblement criminel, il peut très bien, lui, aller directement au DPCP, s'il juge qu'il devrait y avoir des accusations, ou demander éventuellement un corps de police de faire enquête. Donc, cet aspect-là, potentiellement criminel, peut être couvert par le commissaire. Mais lui, il peut aussi analyser sous l'angle déontologique. Est-ce que le code de déontologie des policiers a été respecté? Parce que ça se peut qu'il n'y ait rien de criminel, mais qu'il y ait une infraction déontologique. Et là, il va pouvoir les citer à comparaître devant le comité de déontologie. Donc, c'est beaucoup plus complet que le BEI. Si j'avais mandaté le BEI, le BEI, lui, aurait seulement abordé l'angle potentiellement criminel. Et là, s'il dit, ben, il n'y a rien de criminel, moi, mon mandat est fini, le rapport n'est pas public, il n'y a pas plus d'informations que ça qui aurait découlé de ça. Puis là, les gens auraient dit, ben, non, c'est pas plus, on sait bien.
OK. Donc, vous aimez mieux.
C'est beaucoup plus commode et transparent et complet de mandater le commissaire.
D'accord. Écoutez, Madame la ministre, vous nous avez demandé de vous libérer à 15. Est-ce que je peux quand même prendre un petit 30 secondes de plus?
Juste pour
vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'il n'y a aucun policier issu de minorité visible à Québec? C'est votre ville. On est en 2021. J'avoue que moi, j'ai été étonnée. Je viens de Québec aussi.
Mais malheureusement, moi, je suis malheureusement pas étonnée. Je savais cette information-là. J'en ai parlé souvent avec le directeur actuel. Il est relativement nouveau. Avant ça, c'était M. Pigeon. J'en parle avec tous mes corps de police. Et la réalité, là, je vous fais ça, je vous abrège ça, mais un corps de police au Québec actuellement doit engager un policier qui a une formation de l'École nationale de police du Québec. Tous les policiers au Québec étudient à l'École nationale de police. Donc, les corps de police, on en a 55, doivent embaucher les recrues qui sortent de l'École de police. Fait qu'ils se partagent tous là, les mêmes corps qui sortent à chaque année de l'École de police. Or, dans les cohortes qui sortent de l'École de police, il y a très peu de gens qui sont issus des communautés culturelles ou des communautés autochtones. Donc, ils doivent fonctionner à l'intérieur des bassins de recrues qui sortent, qui, elles, contiennent très peu de ces personnes-là. Donc, notre défi, nous, moi, mon défi comme ministre de la Sécurité publique avec mes collègues de l'éducation, c'est d'intéresser nos jeunes à devenir policiers. Le meilleur moyen d'avoir de la représentativité, puis après ça, de bâtir des liens de confiance, de se reconnaître, le sentiment d'appartenance et tout ça, c'est d'avoir une variété de gens, d'hommes, de femmes, et de toutes les communautés et des communautés autochtones au sein de nos corps de police. Fait que pour ça, il faut que nos jeunes, en secondaire 2, 3, 4, 5, s'intéressent à la profession policière et après le secondaire, décident d'aller faire soit l'AEC, soit la technique policière, pour après ça entrer à l'école de police et devenir policier. Fait que le défi, là, il remonte bien avant l'embauche des corps de police, même avant l'école de police. L'école de police, eux aussi, fonctionne avec les gens qui ont fait l'AEC. Fait que ça a l'air un peu compliqué, là, mais autrement dit, il faut convaincre nos jeunes de choisir d'être policiers dans la vie.
Oui.
Parce que je peux vous dire que tous ceux tous les finissants issus des communautés ou issus des communautés autochtones vont être embauchés, là, vont avoir des promesses d'embauche avant même d'avoir commencé leur formation, je suis certaine.
Donc, faut commencer en amont, parce que c'est clair.
Il faut sensibiliser.
Voilà.
Intéresser nos jeunes. Intéresser nos jeunes. Nos policiers vont dans les écoles. Ils essaient de faire voir l'autre partie du travail policier. C'est pas juste ce qu'on a vu là, comme sur Internet en fin de semaine. Puis c'est pas juste des choses négatives. Au contraire, c'est une profession hyper valorisante. On aide des victimes. On sauve des vies. Mais le défi est là. Fait que le message est lancé. Puis merci de m'avoir offert vos ondes pour proposer aux jeunes femmes et hommes de devenir policiers.
Et moi, je vous dis merci beaucoup, Mme Guilbeault, de nous avoir accordé cette entrevue.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Bonne fin de journée.
Merci.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Qui aurait cru, comme je le disais, il y a quelques semaines à peine, qu'on se retrouverait avec près de 2000 nouveaux cas de COVID dans une seule et même journée. On est à 1196 nouveaux cas aujourd'hui. Ajoutez à ça le variant Omicron, dont on sait encore bien peu de choses, ça commence à ressembler à des fêtes qui pourraient être un petit peu plus modestes en termes de nombre. Le ministre Christian Dubé a en tout cas appelé à la prudence ce matin dans un point de presse. On parle de tout ça avec le docteur André Veillette, immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Bonjour, docteur Veillette.
Bonjour, Madame Lavallée.
Deux fois dans la même semaine, c'est du bonheur, ça. Dommage que le sujet soit si difficile. Comment vous avez réagi, vous, aujourd'hui, en voyant les chiffres?
Je pense qu'on s'y attendait tous un peu. Ça monte progressivement. Bon, ça diminue toujours le dimanche, puis le lundi, puis aussi des fois le mardi, là. Mais bon, après ça, ça remonte. Donc, je pense que c'est juste la progression, pas en flèche encore, là, mais juste une progression... lente du nombre de cas qu'on a. Même chose avec les hospitalisations, qui sont quand même beaucoup moins que ce qu'on avait auparavant, grâce au vaccin et grâce aussi probablement aux mesures. Les gens reçoivent moins de virus qu'ils en recevaient avant. Mais c'est clair que le nombre de cas augmente puis qu'il va y avoir une augmentation aussi des hospitalisations qui va suivre en moins grand nombre, comme j'ai dit, mais il va y avoir ça aussi. Donc, je pense que c'était attendu. Évidemment, indépendamment de Omicron, puis là, tu as Omicron là-dedans.
Ouais, qui vient nous faire peur. Mais là, tous les cas qu'on voit, d'après vous, ça vient des non-vaccinés, des vaccinés qui l'attrapent quand même. Ça m'intrigue, ça, tout à coup.
C'est comme le 2/3 ou 60% c'est des gens non-vaccinés, puis 40% c'est des gens vaccinés.
Okay.
Au niveau des hospitalisations, c'est quasiment moitié-moitié. Moitié vaccinés, moitié non-vaccinés. Les gens qui sont non vaccinés sont souvent plus jeunes. C'est souvent des gens entre 0 et 19 ans, donc d'âge scolaire. Puis il semble que ça soit surtout dans les écoles primaires qu'il y a ça. Puis les plus âgés, ben, c'est autour de les vaccinés chez des si on sont plus âgés, c'est autour de 50 ans, je pense.
Et donc, ça veut dire que même bien vacciné, il faut vraiment continuer d'être prudent.
Ah oui, tout à fait. Je pense que les vaccins sont très efficaces, mais comme mesure unique, c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a toutes les autres mesures, en particulier les masques, puis d'avoir de bons masques, qui est vraiment très important pour complémenter l'impact des vaccins. Et avec toutes les autres choses qu'on connaît, hein, la ventilation, l'utilisation des tests rapides, la distanciation. Alors, je pense que ce sont toutes des choses qu'on doit faire ensemble. On est chanceux. On n'aura probablement pas à se reconfiner de façon générale. Mais pour ça, il faut continuer à avoir les mesures. On était pas mal sages au Québec, en fait, pour cette quatrième vague-là. Je pense qu'on lâche les mesures trop.
Oui, mais c'est ça qui est fâchant, parce qu'on a tellement l'impression de travailler fort puis de faire tout notre possible pour que finisse. Et puis, tout à coup, au moment où on recommence à avoir d'espoir, bang, si on suit aux dernières vagues, parce que je me souviens, c'est un peu la même chose qui est arrivée l'an dernier. Même, vous vous souvenez, le premier ministre avait même dit qu'on pourrait fêter à Noël, etc. Puis, oup, une semaine après ou 10 jours après, il a été obligé de dire, ben finalement, non, on ne fêtera pas pantoute. Ça avait été assez particulier. Là, est-ce que si on se fie à ces dernières vagues avant celle-ci, ça pourrait continuer de grimper jusqu'aux fêtes?
Probablement. On peut s'assurer que ça diminue moins en maintenant les mesures qu'on connaît. Évidemment, il va y avoir l'impact de la vaccination des 5 à 11 ans, qui, je pense, va commencer à se faire sentir.
Hey, ben ça va bien, alors, ça. C'est incroyable.
Ça va très bien.
Incroyable.
Très, très bien. Bon, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait 2 doses, mais on devrait quand même déjà avoir un effet avec la première dose. Et puis, on a aussi le fait qu'il y a des gens qui commencent à recevoir leur 3e dose. Moi, de ces jours-ci, il y a pratiquement pas de cas dans les CHSLD. C'est comme de la magie. Évidemment, ils font aussi très attention. Ils ont les masques et les mesures. Mais c'est clair qu'on rajoute des interventions, que ce soit la vaccination des 5 à 11 ans, l'introduction de la 3e dose. Puis avec le maintien des mesures, avec les masques et tout, je pense qu'on va ralentir ça. Et puis j'assume qu'à un moment donné, ça va diminuer. Encore là, on ne sait pas ce qu'Omicron va faire à tout ça.
Justement, ce cher Omicron, est-ce que 2 jours plus tard, parce qu'on s'en est parlé lundi, on savait si peu de choses, est-ce que 2 jours plus tard, avec les lectures que vous faites, vous avez accès à plein d'informations que nous, on n'a pas, est-ce que vous en savez plus?
On en sait plus, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, je pense que ce qu'on sait surtout, c'est qu'il y en a un peu partout dans le monde. Alors que le virus il a commencé à circuler à travers la planète, probablement à cause des voyagements entre l'Afrique et les autres continents. Alors, ça a commencé à voyager il y a quelques semaines. On pense pas que c'était déjà présent au mois d'octobre. Les évidences, c'est que ça aurait commencé au mois de novembre.
Début novembre, pas nécessairement en Afrique du Sud. Hein. L'Afrique du Sud, c'est important de le souligner qu'eux ont découvert ce variant-là, c'est-à-dire les scientifiques, et en ont parlé, mais ça veut pas dire que c'est là que c'est né.
Tout à fait. On le sait pas. Il y a une chose qui suggère que c'est peut-être là, c'est que le virus Omicron a beaucoup, beaucoup de mutations. Et ce nombre de mutations-là, on avait ça aussi dans Beta, qui est un autre variant qui originait d'Afrique du Sud.
C'est vrai.
Et puis l'idée avec toutes ces mutations-là, c'est que ça a tendance à se développer chez des gens qui seraient immunocompromis. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui sont immunocompromis à cause des infections chroniques, VIH, malaria et tout, en Afrique. Alors donc, c'est un argument qui suggère ça. Mais va falloir faire le tour, puis faire le tour de la question. Donc on sait que les cas, il y en a un peu partout, les cas augmentent, il y a des hospitalisations, définitivement il y a des hospitalisations en Afrique du Sud. Il y a apparemment personne qui est décédé jusqu'à venir. Mm-hmm. Il y avait le gars de Moderna hier qui nous disait que les vaccins vont pas bien fonctionner contre Omicron, mais je pense que c'était prématuré. Il y avait le gars de Pfizer qui disait le contraire. Alors,
mais dans ce contexte-là, trouvez-vous qu'on a raison de fermer les frontières un peu partout, puis de demander aussi, hier je voyais l'OMS qui demandait aux gens de 60 ans et plus de ne pas voyager.
Je pense que comme premier réflexe de fermer les frontières, c'est ce qu'il faut faire parce qu'on connaît pas la situation, on sait pas ce qui se passe. Okay, mm-hmm. Dans ce temps-là, tu fermes. Tu sais que ça devient en partie de telle place, l'Afrique du Sud, tu fermes, mais c'est sûr qu'il faut être plus sophistiqué au niveau des mesures, à mesure que les informations rentrent. Alors, je pense que ce qui va être plus pertinent, ça va être les contrôles qu'ils vont faire aux gens qui arrivent de l'extérieur. Hein. Il va falloir maintenant avoir des tests aussitôt qu'on arrive au Canada par avion. Et puis, évidemment, les gens ne veulent pas oublier, faut pas qu'ils oublient non plus qu'il y en a probablement déjà ici, puis on a déjà Delta en plus de ça, alors faut pas laisser dire que, OK, bon, on va juste fermer les frontières ou on va juste faire des tests aux voyageurs, tout va disparaître. Mais je pense que de tester les voyageurs quand ils arrivent, ça va remplacer probablement les directives là, de ne plus avoir de gens qui viennent de tel ou tel pays.
Ben, on va se laisser là-dessus, docteur Veillette. J'ai l'impression qu'on va se reparler pendant le temps des fêtes, si jamais vous êtes disponible dans cette période-là. Moi, je serai là du 20 décembre pour 3 semaines. Alors, c'est toujours très intéressant de vous parler parce que vous avez une bonne façon d'expliquer, puis ça, c'est très important.
Ah ben, je vous remercie.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Un gros merci.
Merci. Bye.
Au revoir. Pour une deuxième semaine d'affilée, le gouvernement Legault est dans la tourmente au sujet des inspections en CHSLD au début de la pandémie. La coroner Jeanne Kamel, qui chapeaute l'enquête, s'étonne du second témoignage de la sous-ministre adjointe aux aînés, Nathalie Rosebush, qui témoignait pour une deuxième fois aujourd'hui, qui dit que la centaine de CHSLD du Québec avait été prévenue de l'arrivée du coronavirus, écoutez bien, le 12 mars 2020, et non pas en janvier, comme l'a pourtant affirmé l'ex-ministre de la Santé, Daniel McCann. On en parle avec Katia Gagnon, journaliste à la presse et chef de la division enquête qui couvre cette enquête de brillante façon. Bonjour, Katia.
Bonjour, Marie-Claude.
Alors, une nouvelle contradiction qui vient jeter pas mal d'huile sur le feu, là.
Ben, en fait, Mme Kamel, ça fait plusieurs jours qu'elle s'étonne, dans le fond, de ce trou, ce qu'elle appelle un trou qu'il y a entre la fin de janvier et le début de mars, en fait. Hein? Mm-hmm. Elle se demande qu'est-ce qu'on a fait exactement pendant cette période-là pour préparer les CHSLD dans le concret. Ce que Mme McCann est venue dire, c'est que oui, elle avait envoyé une lettre à tous les établissements pour leur dire, bon, attention, le drapeau rouge, la pandémie arrive, mais il n'y a aucune mention dans ce document-là initial qu'elle a envoyé aux établissements des CHSLD. Et ce que Mme Rosebush est venue dire aujourd'hui, c'est ben nous, les CHSLD, on leur a envoyé une lettre, un guide de préparation, dans le fond, à la pandémie, là, complet, le 12 mars. Donc là, Mme Kamel, c'est sûr qu'elle s'étonne du fait que tout le monde, en théorie, semblait réaliser dès la fin de janvier ou le début de février que les personnes âgées allaient être plus affectées, disons, que la moyenne de la population par ce nouveau virus. Et elle s'étonne du fait que comment ça se fait qu'on n'a pas réagi, comment ça se fait qu'on n'a pas averti le premier ministre, par exemple, de l'imminence du danger avant le 9 mars. Alors, elle se pose beaucoup de questions là-dessus, Mme Kamel. On l'a senti aujourd'hui quand elle a mentionné là, vraiment là, sous forme de commentaires ou d'impressions qu'elle trouvait que l'action gouvernementale avait été trop peu trop tard.
En effet, j'allais justement dire que c'est ce qui résume un peu la journée, ce qu'elle dit trop peu trop tard. Et vous dites qu'elle n'est pas satisfaite. Je vous dirais qu'à écouter ce qui se passe à la commission, à la commission d'enquête, c'est-à-dire à l'enquête de la coroner, on est une méchante gang là, à trouver que ça n'a juste pas d'allure.
Mais c'est ça, c'est que l'action gouvernementale est pas vraiment pas précise. Hein. Elle a eu beaucoup de questions, Mme Kamel, sur bon, quel comité était en place, où est-ce qu'on discutait des choses, qu'est-ce qui se passait précisément. Et là, cette semaine, elle a, dans le fond, il y a un nouvel acteur là, qui est arrivé sur son radar, qui est le directeur de la sécurité civile, M. Martin Simard. Donc, la sécurité civile, c'est l'instance au Québec, là, quand il y a une crise, que ce soit une pandémie, une inondation ou toute autre crise, qui lève le drapeau rouge et qui commence à prendre des mesures la première. Alors, Mme Kamel a dit, ah, je pense que ça, c'est la pièce qui manque à mon puzzle, la sécurité civile. Donc, j'ai besoin d'entendre M. Simard et M. Pierre Lafleur, qui était à l'époque de la première vague, le sous-ministre adjoint. Si je ne m'abuse, qui était responsable de la sécurité civile. Donc, elle veut vraiment essayer de comprendre là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là entre la fin janvier et le début de mars. Qu'est-ce qu'on a fait pour préparer les CHSLD concrètement? Puis à date, ben, elle ne semble pas avoir beaucoup de réponses.
Oui, puis ce qu'on apprend aussi, c'est que la sous-ministre Rosebush faisait le point aussi sur les rapports effectués dans les CHSLD pendant la pandémie. Puis ça a l'air qu'il y a des inspecteurs qui ne peuvent même pas rentrer.
Bien, c'est-à-dire que les inspecteurs pouvaient rentrer dans les CHSLD. Évidemment, en zone rouge, c'était beaucoup plus délicat, bien sûr. Marie-Claude, moi, pour être allée sur le terrain pendant la pandémie, parfois, on n'avait pas accès à ce genre d'endroit-là. Mais c'est vrai que ces gens-là, peut-être, n'ont pas pu tout voir. De l'autre côté, les rapports qui ont été produits dans le fameux fichier Excel sont assez précis. Là. On dit combien de personnes manquaient à l'appel, combien il y avait d'infirmières qui manquaient, combien il y avait de préposés, combien il y avait de cas. Est-ce que les gens étaient nourris? Est-ce que les gens étaient habillés? Est-ce que les gens étaient... Donc, il y avait des observations quand même assez précises qui pouvaient être notées par les inspecteurs et le gestionnaire. Ce que Mme Rosebush expliquait, c'est que le gestionnaire, dans le fond, du CHSLD, faisait la tournée avec l'observateur, parce que c'était pas un inspecteur, c'était un observateur qui était là. Justement, là, on n'était pas dans un processus d'inspection, là, grand processus. On était dans un processus de dire, bon, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ici et maintenant? Quels sont les CHSLD qui sont rouges, qui sont jaunes, puis ceux où ça va bien? C'était ça le but de ce document Excel-là, où justement les fameux rapports papier n'étaient pas transmis au ministère. Hein? C'était juste une prise de note de la part des inspecteurs, des observateurs, qui directement rentraient ça dans l'ordinateur, dans un fichier Excel. Puis là, je pense que la coroner aujourd'hui a eu les rapports qu'elle demandait là, et ils lui ont donné des captures d'écran de tous les rapports qui couvrent tous les CHSLD couverts par l'enquête. Évidemment, c'est pas tous les CHSLD qui sont examinés par Mme Kamel, là. Il y en a 6 CHSLD. Mm-hmm. Donc, dans ces 6 CHSLD là, je pense, en tout cas, la coroner semblait dire qu'elle avait eu accès à ce qu'elle voulait comme information.
Et donc, enfin, si on résume la journée aujourd'hui, c'est cette fameuse phrase « trop peu, trop tard ». À quoi s'attendre pour la suite de l'enquête?
Mais là, l'enquête se termine avant les fêtes. Là, c'est la dernière période. C'était la dernière journée aujourd'hui. On reprend le 10 janvier, donc avec justement les gens de la sécurité civile, messieurs Simard et Lafleur, qui vont venir et qui vont venir expliquer là quel était le rôle de la sécurité civile. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour protéger les CHSLD? Est-ce qu'on a pensé aux CHSLD? Est-ce qu'on leur a envoyé des directives? Qu'est-ce qu'on a fait exactement précisément? Donc, c'est ce qui reste, je pense, comme témoin à entendre, à moins qu'elle décide qu'elle en veut d'autres. Évidemment, elle a toute la liberté là, pour appeler qui elle veut, là, Mme Kamel. Oui, puis elle ne se gêne pas pour le faire.
Hein, non. Puis après, ce sera le rapport officiel, puis j'ai l'impression que ça va être assez...
Exact. Le rapport officiel, on a mentionné la date de la fin de mars.
Ouais.
Donc, j'imagine que Mme Kamel va se conformer à cette date-là.
Oui, puis ça va être costaud, j'ai l'impression. Oui, Katia Gagnon, journaliste à la presse, chef de la division enquête. Un gros merci.
Merci à vous, Marie-Claude.
Au revoir.
Patrick Lagacé en accéléré.
Une bière au petit pois et choux marinés. Qu'est-ce que ça vous dit? Je pense qu'on est pas mal loin de nos bières artisanales québécoises. Ça se passe, ça, à Reykjavik. C'est une bière qui a énormément de succès. Donc, petits pois et choux marinés. En quelques heures, les magasins ont été... En fait, là où ils les vendent, la brasserie où ils les vendent a été dévalisée au moment du lancement. C'est donc produit avec des conserves de petits pois et du chou rouge mariné. Et on dit que c'est l'accord parfait pour les fêtes de Noël en Islande. J'ai hâte d'entendre Philippe Wouters, expert en bière, éditeur de bière et de plaisir.com sur ce sujet. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Alors, bière aux petits pois et choux marinés. Je me permets de douter, mais qui sait, peut-être que je doute pour rien.
Cette bière a été brassée uniquement dans le but de faire parler la brasserie et ça fonctionne puisqu'on en parle jusqu'au Québec. alors, il faut reprendre d'abord le contexte. On est en Islande, on a, je sais pas, mais moi, la culture gastronomique islandaise, j'ai un petit peu essayé, puis on n'est vraiment pas dans la même culture par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger au Québec ou, je vous dirais, dans les pays occidentaux. Donc, on est sur une culture brassicole qui est attachée à la culture gastronomique dans ce cas-ci. Petits pois et choux, ce que j'ai cru comprendre, ce sont des ingrédients qu'on retrouve facilement dans la cuisine de Noël. Donc, on pourrait appeler ça une bière de Noël islandaise. Là où ça devient intéressant, c'est que moi personnellement, je l'essayerai parce qu'en fait, je suis assez curieux pour l'essayer. Mais à mon avis, je n'aimerais pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ce produit fait parler de la brasserie, sur des sites internet de notation de bière internationaux comme Untappd, elle a 2,85 sur 5. Ça veut dire que sur 180 personnes qui ont goûté cette bière-là et qui ont été mettre une note, elle a même pas la note de passage pour pouvoir dire que c'est une bonne bière. Donc ça fait le buzz et c'est souvent ce genre de bière-là qui permet de faire le buzz, tout simplement.
Bon, et puis, par contre, c'est pas si rare que ça de faire des bières avec des légumes.
Non, parce que historiquement parlant, on en faisait, puis on a même, si on regarde les anciennes brasseries au 19e siècle, c'était pas rare non plus qu'elles fassent des bières avec tout ce qui pouvait créer du sucre et donc de l'alcool. Donc on allait chercher des légumes, on allait chercher des fruits. Pendant les premières guerres mondiales, plusieurs brasseurs également, même distillateurs, hein, Jack Daniels à l'époque ne pouvait plus utiliser de grains parce qu'il était réservé pour les efforts de guerre, mais ils ont utilisé des fruits pour faire des schnapps et compagnie. Donc le fait de brasser ou de distiller effectivement des légumes et des fruits, ça se fait depuis longtemps. Là, ce qui est intéressant, c'est que on voit un courant arriver ces dernières années de brasser tout et n'importe quoi. J'ai goûté en France une bière au cassoulet qui, ma foi, méritait la meilleure note de 2,5 aussi. Là, ça valait pas grand, ça valait
la
pas grand chose.
La bière au dans la région de cassoulet.
Oui, la bière. Donc on y retrouvait des fèves au lard, on y retrouvait du canard, on y retrouvait du fond brun, etc. C'était vraiment aucun intérêt. J'avais d'ailleurs, en France, je me souviens, dans une conférence, j'avais indiqué que je trouvais ça avec aucun intérêt, puis le brasseur avait pas forcément aimé mes propos. Mais en même temps, quand on fait ce genre de produit-là, il faut s'attendre aussi à la critique. Au Québec, on a eu aussi des initiatives. La brasserie Opéra, quand elle a commencé à opérer dans le coin du Saguenay, elle nous a sorti une bière au skateboard, donc à la planche à roulettes. Alors, bien évidemment, il s'agissait d'une planche en bois utilisée pour faire des planches à roulettes. Donc, on s'entend que c'est vraiment des bières pour faire le buzz. Moi, je préfère nettement avoir des bières, entre guillemets, normales, avec un savoir-faire brassicole en arrière, avec un brasseur qui sait ce qu'il fait, puis qui s'attend à ce que j'apprécie ce qu'il fait.
Mais en général, tu aimes les bières aromatisées? Parce que moi, je fais encore partie de cette catégorie de gens qui aiment la bière la plus traditionnelle. Une belle blonde, une bonne blonde, bien, bien froide, je suis heureuse. On dirait que j'ai pas tellement le palais pour les bières aromatisées.
Ben Claude, j'aime mes bières en fonction du moment à laquelle je vais la boire. J'aime mes bières comme j'aime mon vin. Je suis professionnel dans la bière, je suis amateur dans le vin. Donc, je vais parfois vouloir un vin rouge un petit peu plus charnu, parfois un petit peu plus fruité, parfois quelque chose un petit peu plus sur le terroir. Ben, dans ma bière, c'est la même chose. Alors, je peux aller sur une bière blonde désaltérante en fin de journée. Je peux décider d'accompagner ma bière avec mon repas. Et c'est un peu ce que ce projet-là veut faire, d'ailleurs. Hein. C'est de vraiment de faire une bière pour accompagner un repas traditionnel islandais. Mais il y a des bières pour tous les moments. Et d'ailleurs, quand je tombe sur des gens qui me disent « je n'aime pas la bière », j'ai toujours tendance à répondre « c'est pas que tu n'aimes pas la bière, c'est que tu n'aimes pas toutes les bières que tu as bues jusqu'à aujourd'hui ». Donc, à un certain moment, on va trouver des produits. Ce qui est la tendance en ce moment, c'est les fruits, c'est le sucre. Donc, c'est-à-dire qu'on se redirige de plus en plus vers des bières fruitées, que ce soit les New England IPA, les IPA contemporaines qui contiennent des houblons qui sont extrêmement fruités, ou que ce soit des bières à la limite un petit peu plus difficiles à trouver, comme les smoothies qui contiennent de la purée de fruits. Mais encore là, ce qu'on demande aux brasseurs, c'est de faire ça avec intelligence et surtout s'assurer que le produit soit qualitativement irréprochable.
Oui.
Et il est là le problème.
Oui, en effet, parce que c'est tellement tout un univers depuis quelques années. Il y a des moments où on peut penser même qu'on est en train de dénaturer la bière.
Mais oui, je suis un des premiers à le dire d'ailleurs au Québec. La culture bière s'en va dans tous les sens, à tel point que maintenant, les brasseurs doivent rivaliser d'énergie, de vitalité et même parfois de buzz pour pouvoir attirer le consommateur vers eux. On a à peu près l'équivalent de plus de 1000 nouvelles bières par année. Un consommateur québécois moyen boit environ 200 à 220 bières différentes par année. Ça veut dire qu'il existe 5 fois plus de bières disponibles sur le marché chaque année. Donc forcément, les brasseries doivent essayer de sortir du lot et parfois elles font des trucs qui sont un petit peu, désolé je vais le dire, stupides.
Oui, 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 puis pas nécessairement très bon non plus, puis bon, certains, je dois te dire Philippe que j'ai goûté, je disais tantôt que j'aimais, mais j'ai goûté cet été une bière aromatisée aux fines herbes, il y avait une herbe fine, je me souviens plus laquelle, et c'était un pur délice parce que c'était très subtil.
Fort probablement la herbosophie de la brasserie Green, de la brasserie Noctem située à Québec, qui est une bière que j'adore parce qu'ils utilisent les herbes qu'on a l'habitude de travailler en cuisine, romarin, thym, etc., mais avec parcimonie, avec équilibre, et il y a réellement une recherche gustative derrière ça, et ça, c'est le genre de bière que j'apprécie.
C'est exactement ça.
Oui, c'est ça. Mais après, tu peux avoir l'excès, c'est-à-dire qu'une autre brasserie décide de faire la même chose, et là, dans ce cas-là, ils vont aller mettre la tondeuse qui a permis de tondre le gazon dans le brassin, etc. Fait que, tu sais, il y en a plus de limites, là. Fait que, c'est pour ça qu'à un certain moment, il faut revenir. C'est un peu mon rôle que je me suis donné il y a quelques années, c'est de ramener tout le monde un petit peu dans la culture bière en disant, hey, c'est bien le fun de mettre une tondeuse dans le brassin, mais d'abord, c'est pas très hygiénique. Puis, deuxièmement, à part faire le buzz, je vois pas trop l'intérêt. Revenons à l'essentiel de goûter des produits un petit peu plus sains et surtout avec une réelle volonté de faire un produit qui est équilibré.
Bon, et somme toute, puis on va se laisser là-dessus, Philippe Wouters, est-ce que tu trouves quand même que ce qui se passe au Québec est intéressant pour maintenant et pour la suite des choses?
Oui, bien évidemment, parce que nonobstant ce genre de bières qui font le buzz, d'autant plus qu'elle n'est même pas québécoise, il n'empêche qu'au Québec, on a de plus en plus de bières qui sont qualitativement irréprochables. On a de plus en plus de brasseurs également qui s'intéressent à l'aspect local de la bière, parce que il y a quelques années, on buvait des bières du Québec, mais les ingrédients pouvaient venir de l'extérieur du Québec. Est-ce que c'était un produit du terroir? On n'a pas encore réellement répondu à cette question, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de produits brassés au Québec avec des ingrédients du Québec, et ça, c'est le fun parce que ça devient réellement un produit local. Et en plus de ça, on le voit dans les tendances des ventes, les consommateurs s'intéressent de plus en plus à leurs produits locaux, c'est-à-dire dans leur région, et des brasseries du Québec, il y en a dans toutes les régions. Donc, le marché est rendu mature, dans le sens que le marché maintenant est bien installé, et ce qui va faire la différence, je pense, ça va être sur la qualité, et surtout, on va avoir fini de faire le buzz avec plein de trucs, etc., et on va pouvoir revenir à certainement à un marché. Mais le marché s'installe, il y a deux, trois courants différents qui s'installent là-dedans. Contrairement au vin qui est principalement vendu par la société de la SAQ, la bière est vendue par tout le monde, donc tout le monde peut acheter n'importe quoi, y compris les détaillants.
Philippe Wouters, expert en bière, éditeur de bière et de plaisir.com, un gros merci.
Merci, Marie-Claude.
Au revoir, à la prochaine.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.